Chapitre 26. Kamouraska. Le 25 août 1842, au matin, nous avions béni la 7e école nouvellement élevée dans ma paroisse de Beauport. Dès ce jour, les enfants de la paroisse étaient assurés de recevoir les bienfaits d'une aussi bonne éducation qu'il est possible de donner dans les campagnes du Canada. Ces écoles s'étaient élevées comme par enchantement sur les ruines d'auberges qui, naguère, semaient la honte, la misère et la mort de tous côtés. La joie que j'éprouvais à la vue de ces merveilleuses œuvres des miséricordes de Dieu était inexprimable. Vers 2 heures, après avoir récité mes vêpres, je me promenais seul dans les allées de mon jardin, à l'ombre des arbres centenaires qui en bordaient la partie nord, et je repassais, dans mon esprit, les combats et les victoires de ces 4 dernières années. Cette paroisse de Beauport, où j'étais entré comme un abîme sans fond de honte, de misère et de crime, avait été changée pour moi, par la miséricorde de Dieu, en un vrai paradis terrestre. Il n'y avait plus qu'un désir au fond de mon âme, c'était que je puisse passer le reste de mes jours sous cette terre aimée. Et, comme l'apôtre Pierre sur le mont Tabor, je demandais à mon Dieu de vouloir bien fixer ma tente pour toujours à Beauport. Mais le sévère refus donné à l'apôtre insensé devait aussi mettre fin à mon rêve de bonheur. En ce moment, j'aperçus le secrétaire de l'évêque de Québec qui s'avançait vers moi et me présentait la lettre suivante du coadjuteur, Monseigneur Turgeon. Mon cher Père Chiniqui, Monseigneur l'évêque de Québec et moi désirons conférer avec vous sur une affaire de la plus haute importance. Nous envoyons notre voiture pour vous emmener en ville. Veuillez venir tout de suite, votre tout dévoué, F. Turgeon. 1 heure plus tard, j'étais auprès des évêques. « Monsieur Chiniqui, me demanda Monseigneur Turgeon, est-il vrai que vous soyez né à Kamouraska ?»«
Oui, Monseigneur. »«
Aimez-vous cette paroisse et vous intéressez-vous à ce qui s'y passe ?» reprit l'évêque. «
Assurément, Monseigneur, j'aime cette paroisse et je m'intéresse à sa prospérité, parce que c'est le lieu de ma naissance et que j'y ai passé les plus beaux jours de ma jeunesse. »«
Vous savez sans doute que Monsieur Varin est depuis longtemps empêché, par ses nombreuses infirmités, de s'occuper activement de sa paroisse. » Depuis plusieurs années, elle n'est à bien dire conduite que par des jeunes vicaires. Il nous est impossible de continuer cet état de choses. Kamouraska est le rendez-vous des premières familles de Québec et de Montréal qui, tous les étés, au nombre de plusieurs centaines, vont y refaire leur santé. L'absence d'un prêtre capable de bien diriger une paroisse aussi importante est la cause d'une infinité de désordres. Le fait est que l'ivrognerie, le luxe et l'immoralité la dévorent et la détruisent comme des chancres. Il nous faut un homme dont l'énergie et l'expérience puissent arrêter le débordement de tous ces vices. Ces paroles transpercèrent mon âme comme une épée à 2 tranchants. Mes lèvres se mirent à trembler. Je sentis mon gosier se fermer comme si une main ennemie m'eût étouffé. Ma langue était tellement paralysée que je pus à peine répondre d'une voix tremblante. « J'espère que votre grandeur n'a pas la pensée de monter de Beauport. »«
Non, Père Chiniqui. » Nous n'avons pas l'intention de nous servir de notre autorité pour briser les liens si chers et si sacrés qui vous attachent à votre belle paroisse de Beauport. Mais nous allons mettre dans votre conscience les raisons que nous avons de vous nommer curé de Kamouraska, espérant que, de vous-même, guidé par la charité qui vous anime pour le salut des âmes et le zèle que vous avez pour le bien de l'Église, vous ferez ce sacrifice. En un mot, nous espérons que vous vous sacrifieriez vous-même pour sauver tant d'âmes qui périssent dans la paroisse qui vous a vu naître. »
Pendant plus d'une heure, les 2 évêques parlèrent avec une force irrésistible. Ils en appelèrent aux sentiments les plus nobles de l'âme et de la conscience pour me montrer la nécessité de courir, sans différer 1 heure, au secours de ces multitudes que l'ivrognerie, le luxe, l'impiété, la débauche entraînaient dans l'enfer. Les évêques avaient parlé avec une bonté qui avait touché toutes les fibres de mon cœur. Et ils ne s'étaient pas trompés lorsqu'ils avaient pensé que leur prière serait plus efficace que leur ordre contre les raisons que j'aurais pu donner pour rester à Beauport. Je me sentais incapable de leur résister. Après avoir versé des larmes, j'acceptai le sacrifice et je consentis à renoncer à l'avenir de paix et de bonheur qui m'était assuré pour courir sur un nouveau champ de bataille où les plus dangereux combats comme les plus humiliantes épreuves m'attendaient. Je n'ai pas besoin de dire que la paroisse de Beauport fit tout en son pouvoir pour que j'y reste encore quelques années, mais tout fut inutile. Le 2 dimanche de septembre, je fis mon discours d'adieu au milieu des larmes et des sanglots de toute l'assemblée. Le 17 septembre, j'étais sur la route de Kamouraska.
je n'avais pour tout bagage qu'un petit sac. J'avais laissé derrière moi tout mon ménage et tous mes livres comme un fardeau inutile en présence des luttes et des difficultés dont mon avenir était plein. Lorsque j'allais prendre congé des évêques, ils me montrèrent une lettre qu'ils venaient de recevoir du curé Varin, remplie de la plus amère indignation contre eux et contre moi. Ils m'appelaient fanatique, propre à jeter le trouble et la confusion au milieu d'un peuple renommé par son union et ses dispositions pacifiques. Les derniers termes de la lettre étaient ainsi conçus. Le clergé et le peuple de Kamouraska et des environs regardent la nomination de M. Shiniki comme une insulte publique. Nous prions donc votre grandeur de nous envoyer un autre prêtre. En me montrant cette lettre, les évêques me dirent : nous craignons que le vieux curé et ses partisans ne vous donnent plus de peine que nous ne pensions. Mais nous vous recommandons à la grâce de Dieu et nous vous mettons sous la protection de la Sainte Vierge. N'oubliez pas que notre Seigneur Jésus-Christ a dit à tous ses soldats : ne craignez rien, j'ai vaincu le monde. Il sera donc avec vous pour vous conseiller et vous soutenir au jour de l'épreuve. J'arrivai à Kamouraska le 21 septembre 1842 au milieu d'une des plus délicieuses journées d'automne. Mais j'avais le cœur brisé, car tout le long de la route, les curés m'avaient dit que le peuple de Kamouraska et leurs vieux prêtres étaient furieux contre moi. Le bruit s'était même répandu que l'on devait me fermer les portes de l'église le dimanche suivant pour m'empêcher d'y faire l'office. Puis, deux événements bien étranges de mon voyage ne contribuaient pas peu à jeter un sombre nuage sur mon horizon. Mon frère Achille, qui vivait à Saint-Michel, s'était chargé de me conduire de chez lui jusqu'à Saint-Roch-des-Aulnay, chez notre frère Louis, qui devait me mener jusqu'à ma nouvelle demeure. Il s'était acheté un joli cabriolet tout neuf que nous devions étrenner. Mais nous n'avions pas fait plus de 5 à 6 milles qu'une roue ayant frappé sur une pierre, la voiture se brisa si complètement que nous tombâmes tous deux dans le chemin avec ses débris. Heureusement, un voyageur qui nous suivait consentit à me donner une place dans sa calèche. Je laissai donc là mon pauvre frère et je continuai ma route jusque chez mon autre frère. Celui-ci avait un très beau cheval dont il était justement fier. Mais, parvenu à 3 ou 4 milles de Kamouraska, le noble animal mit le pied sur un long clou qui s'enfonça jusqu'à la tête et lui fit une si terrible blessure que la bête mourut du tétanos. Arrivé à l'église, située à environ 2 ou 3 arpents du presbytère, je renvoyai mon cocher, pris mon petit sac et entrai dans le temple. J'avais besoin d'être seul pour prier. Mais je ne pus que pleurer. Ces larmes, d'ailleurs, me soulagèrent. À quelques pas de là, à ma droite, dans le cimetière, était l'humble croix qui indiquait la place où reposait ma mère plus chère que ma propre vie, dont la figure angélique était jour et nuit devant ma pensée depuis qu'elle m'avait laissé seul sur la terre. Cette mère, dont les dernières paroles écrites sur son lit de mort avaient fait de moi un nouvel homme, n'était qu'à quelques pas du lieu où j'étais prosterné. Devant mes yeux était l'autel où j'avais fait ma première communion et où j'avais si souvent prié et pleuré avec ma chère mère au jour de ces grandes désolations. À ma gauche était la chair qui allait être pour moi comme le champ de bataille où j'aurais à lutter corps à corps avec les passions, les folies, les péchés qui souillent et perdent l'homme. Et puis, j'avais autour de moi tout un peuple qui frémissait de colère, à la simple pensée que j'allais être son curé. Et ce vieux prêtre, devant qui il fallait bientôt me présenter, dont les paroles amères étaient entrées dans mon cœur comme des flèches empoisonnées. Oh, comme la pensée de ce prêtre me faisait mal! Je me sentais humilié, anéanti sous le poids écrasant de ma faiblesse. Je puis dire, comme le prophète, que mon âme était descendue et comme ensevelie dans la poussière. Je me sentis pris tout à coup d'un si insurmontable dégoût de la vie, mon existence me parut être un si insupportable fardeau que je crus que j'allais perdre connaissance et mourir. Et j'en étais heureux. Tout ce que Dieu m'avait donné de courage moral et physique m'abandonnait en cette heure de suprême agonie. Je me reprochais à moi-même, comme un acte de folie, d'avoir plié sous la volonté des évêques. Il me semblait évident que j'avais pris un fardeau au-dessus de mes forces. Cependant, au milieu de ce terrible combat, je criais à Dieu de toute la puissance de mon âme et je le conjurais de venir à mon aide, de me soutenir, s'il voulait que je devienne le pasteur de cette paroisse. Je lui demandais d'enlever lui-même les insurmontables obstacles qui étaient devant mes yeux. Je priais la Sainte Vierge. Je priais aussi ma propre mère de parler pour moi à Jésus-Christ afin qu'il me regarde dans sa compassion, qu'il me guide dans toutes mes voies. Quand je cessais de prier, je sentis des larmes brûlantes couler sur mes joues. Après avoir prié et pleuré pendant plus d'une heure en la présence de Dieu, je me sentis fortifié et consolé. Il se fit un grand calme dans mon âme et c'est sans effroi que j'entendis l'appel de Dieu qui m'envoyait au combat. Ma seule affaire en ce moment était de m'avancer sans crainte sur le champ de bataille, assuré que Dieu saurait me donner la victoire. Je pris donc mon petit sac, sortis de l'église et m'avançai à pas lents vers le presbytère. Ce presbytère, qui a été détruit dans un incendie, était alors un très bel édifice. Il avait 80 pieds de long, 2 étages et de hautes caves. Quoique infirme et malade, monsieur le curé Varin était à la fenêtre pour épier mon arrivée. Il m'avait vu entrer à l'église et n'avait pu comprendre ce que je pouvais y faire pendant si longtemps. Je frappai à la porte d'entrée. Personne ne répondit. J'entrai sans hésiter, car j'étais en pays de connaissance. Mais voici que 2 chiens faillirent me renverser. J'eus besoin de tout mon sang-froid pour me défendre contre leur attaque. Je me rendis ensuite directement à la chambre du vieux curé. Je frappai et une voix aigre me cria d'entrer. J'ouvris la porte, mais m'arrêtai sur le seuil. Le curé était immobile dans son large fauteuil. « Il paraît, monsieur le curé, que la paroisse de Beauport a fait des démarches empressées pour vous garder. Eh bien, je vous informe que celle de Kamouraska est prête à en faire autant pour vous persuader de vous en retourner. » Telle fut la salutation qui m'accueillit. Je répondis avec calme. « Monsieur le curé, je ne viens pas ici de mon propre chef. C'est pour obéir également à Dieu, je vous préviens, qu'avec sa grâce, je me sens capable de faire face à l'opposition qui se prépare de quelque côté qu'elle vienne. « Est-ce pour m'insulter que vous m'appelez monsieur le curé ?» me répondit-il, d'une voix tremblante de colère. « Vous savez bien que je ne suis plus le curé de Kamouraska. C'est vous qui l'êtes aujourd'hui. « Permettez-moi, monsieur le curé, répliquai-je, de vous dire que vous êtes dans l'erreur. Vous êtes encore et vous resterez jusqu'à la fin de votre vie, qui sera longue, j'espère, le digne curé de cette paroisse. « Mais, si vous n'êtes pas curé, qu'êtes-vous donc ? » reprit-il d'une voix radoucie. « Je ne suis rien qu'un simple soldat de l'Église. Pendant que, comme Josué, je combattrai dans la plaine les ennemis de Dieu et de son peuple, vous, monsieur le curé, comme Moïse, resterez sur le haut de la montagne. Vous élèverez les mains vers le ciel, vous prierez le bon Dieu de me soutenir et nous remporterons la victoire. » Chacune de mes paroles prononcées d'une voix calme faisait impression sur le vieux prêtre. « Ce que vous dites là, monsieur le curé, me répondit-il avec émotion, est très beau. Mais où sont vos bagages ?»« Les voilà, dans ce petit sac que je tiens à la main. Je ne voulais pas vous déranger et encombrer votre presbytère de meubles et d'embarras. Quelle chambre allez-vous choisir ? Monsieur le curé, vous êtes le maître de votre presbytère. Vous choisirez vous-même la chambre que vous voudrez bien me donner. Mettez-moi où vous voudrez, même à la cave ou au grenier. Il ne me faut qu'un lieu où me reposer. Je ne vous demande qu'une faveur pour être heureux ici, c'est que vous m'aimiez comme si j'étais votre enfant et que vous me considériez comme le plus sincère et le plus dévoué de vos amis. » Je n'avais pas fini de parler que le bon vieillard se précipitait dans mes bras et me disait au milieu de ses larmes « Cher père Chiniki, pardonnez-moi le mal que j'ai pensé et dit de vous. Je bénis Dieu de vous avoir amené ici pour être mon ami et m'aider à porter le fardeau de la vieillesse. Une fois seul, dans la belle et grande chambre qui me fut donnée, je remerciais Dieu du miracle qui venait de s'accomplir. Mon plus implacable ennemi venait d'être gagné et je me sentis plein d'espoir. Une des principales causes de l'inimitié des habitants de Kamouraska était ma parenté avec Amable Dion, qui avait fait une fortune colossale à leurs dépens. Le curé Varin, enchaîné aux pieds de M. Dion par des dettes énormes, n'osait pas aller à d'autres magasins. Tout ce dont il avait besoin pour lui-même et pour la fabrique était acheté chez lui à crédit à des taux exagérés. Aussi, quoique les revenus du curé et de son église soient très considérables, il n'avait jamais pu payer ses dettes et était réellement pauvre. En me voyant arriver parmi eux, les habitants de Kamouraska s'étaient dit que le neveu ferait pis encore que le curé Varin et les ruinerait complètement. Le lendemain de mon arrivée, le bedeau m'apprit que la fabrique avait besoin de divers articles et m'offrit d'aller les prendre chez M. Dion. « Allez d'abord chez tous les marchands, lui dis-je, demandez le prix de ce dont vous avez besoin et achetez-le où on vous le donnera à meilleur marché. » L'achat se fit chez un marchand qui fit faire à la fabrique une épargne de 15 sous. Jamais dans ma longue carrière, une si petite cause n'a produit un si prodigieux effet. Le jour n'était pas écoulé que toute la paroisse savait ce qui s'était passé le matin. D'une bouche à l'autre, ce fait si insignifiant en lui-même prenait de plus grandes proportions. chaque habitant courait chez son voisin et on se félicitait mutuellement de ce que la chaîne qui retenait depuis longtemps leur pauvre fabrique au pied de M. Dionne était enfin brisée. Ces braves gens avaient peine à en croire leurs propres oreilles quand ils entendaient dire que le neveu que M. Dionne avait si longtemps gardé chez lui, comme son propre enfant, était assez indépendant, assez juste, pour préférer les intérêts du pauvre peuple à ceux de son riche et tout-puissant parent. Cet acte si aisé et si naturel d'honnêteté de ma part se présentait aux yeux ébahis du peuple comme l'action la plus héroïque. Beaucoup même ne voulurent pas le croire et firent une longue route pour s'en assurer par eux-mêmes. Le soir de ce jour, j'étais élevé jusqu'aux nues, et on regardait mon arrivée dans le pays comme l'événement le plus heureux qui puisse survenir. Il restait cependant encore un petit point noir dans l'esprit de mes paroissiens contre moi. On leur avait assuré que je ne prêchais que sur les liqueurs, le vin et l'ivrognerie, d'un bout de l'année jusqu'à l'autre. Or, il leur paraissait ennuyeux de n'entendre parler que de cela tous les dimanches, eux surtout, qui étaient bien décidés à ne jamais s'astreindre aux règles sévères de la société de tempérance. Le dimanche suivant, le temps était magnifique, et l'église put à peine contenir la foule accourue de tous côtés pour voir et entendre le nouveau pasteur. Mon texte fut « Je vous aime autant que mon père m'a aimé ». Jean 15, 9. Pas un œil ne resta sec pendant que je leur montrais l'amour de notre Sauveur égal à celui dont son père l'avait aimé. Leur piété, quoique bien exaltée pendant ce discours, n'était rien en comparaison de la surprise qu'ils éprouvèrent de ne pas entendre un seul mot sur l'ivrognerie et la tempérance. L'Écriture sainte compare souvent les peuples aux eaux profondes et mobiles de la mer. Lorsque vous voyez les vagues mugissantes, soulevées par la tempête, frappées sur le rocher comme si elles voulaient le briser, ne croyez pas que cette colère des vagues, en courroux, dure longtemps. Dès le jour suivant, si vous revenez sur la plage, vous verrez comme tout est en paix autour du fier rocher. Les eaux de la mer, au lieu de se soulever comme des montagnes pour l'attaquer, lui baisent et lui caressent les pieds. Ainsi, les habitants de Kamouraska, pleins de colère lorsque j'arrivais parmi eux, se trouvèrent-ils entièrement réconciliés avec moi? Que s'était-il donc passé? Le bon maître avait entendu gronder l'orage, il avait vu les flots courroucer contre son pauvre indigne serviteur et il avait commandé à la tempête et aux flots de la mer de se taire. Aussitôt, le calme s'était fait autour de ma fragile barque. À Dieu soit l'honneur et la gloire.